Merci Jean-Marc pour ta prière. Bien sûr qu'on a besoin de prière quand on est devant vous, devant le Seigneur. Ce matin, donc on va lancer la diapo. Ce matin, on va étudier ensemble un passage dans l'évangile de Jean. Et je vais essayer de vous le faire deviner. Certains de mes frères de Sport et Foi qui sont ici présents connaissent le passage que l'on va traiter, donc je leur demande de ne pas parler. Alors Sport et Foi, on se réunit tous les samedis matins et en fait on fait du football et on s'entraîne. Et avant l'entraînement, on passe un petit moment qu'on appelle le moment spi. On fait un petit partage biblique et récemment on a fait un survol de l'évangile de Jean et on a traité les 7 « Je suis » de Jésus. Jésus, à 7 reprises dans l'évangile de Jean, va dire qu'il est « Je suis le pain qui donne la vie », par exemple. Je vous donne le premier, il y en a 7. Est-ce que vous serez capable de me donner les autres ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Oui. Je suis le bon berger. La lumière. Le cep. La résurrection et la vie. C'est très bien, vous êtes très fort. Donc, moi, je vais traiter du passage de Jésus qui... Jésus dit « Je suis le vrai cep ». C'est la dernière fois où il dit « Je suis ». Et avant de commencer, je vais vous donner le contexte. Donc, ce passage se situe dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 12. Alors, si j'arrive à... Hop. C'est ici. Attends. Hop. C'est celui-ci ? Celui-là, d'accord. Sinon, tu le fais toi. Très bien. Donc, c'est dans l'évangile de Jean. Donc, on va survoler en fait l'évangile de Jean, des chapitres 12 au chapitre 17, mais on va se poser sur un passage en particulier. Donc, en fait, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, on voit que Jésus entre à Jérusalem. Voilà, que Jésus rentre à Jérusalem. Au chapitre 10, au chapitre 13, Jésus va laver les pieds de ses disciples. C'est un moment très, très fort. Et au chapitre 17, Jésus va prier pour ses disciples. C'est la prière sacerdotale. Et à la fin, il est question de la croix, de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus, puis de sa résurrection, bien sûr. En fait, entre les passages de Jean 13 à Jean 17, Jésus est en train de donner ses dernières instructions à ses disciples. C'est un moment fort, c'est un moment important. Jésus veut leur laisser l'essentiel, le message central. Et le passage donc, du cep et des sarments, il se situe en plein milieu de ces chapitres, donc de Jean 13 à Jean 17. Je vous invite à le lire, ce passage. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. On va le lire. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Je relis ce dernier verset. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. À première vue, quand on écoute cette métaphore, cette image, il est question de viticulture. Alors, voici une vigne, en été et en hiver. Le cep, c'est le tronc, en gros. Je vais donner les termes exacts. C'est le pied de vigne, c'est sur lui que vont pousser les rameaux qui vont porter du fruit. Les rameaux, ce sont les sarments. Ce sont de jeunes rameaux qui sont bien développés et c'est sur eux que les fruits vont pousser. Donc ici, Jésus nous dit une chose. Il nous dit que lui, il est le vrai cep. Alors, il utilise l'adjectif qualificatif « vrai ». Pourquoi ? On peut se poser la question. Alors, il semblerait que dans l'Ancien Testament, le nom du cep ou de la vigne est utilisé à plusieurs reprises pour désigner le peuple d'Israël. Et très certainement, Jésus y fait référence ici. Et le peuple d'Israël, notamment dans le psaume 80, il est dit que ce cep, cette vigne, le peuple d'Israël, était une vigne excellente. Mais malheureusement, elle est devenue mauvaise. Et ici, Jésus se présente comme le vrai cep, le véritable Israël, en quelque sorte. Et il nous dit, toujours au verset 1, « Mon Père est le vigneron. » Oups, j'ai été trop rapide. « Mon Père est le vigneron. » Le vigneron, c'est celui qui entretient sa vigne. Et par la suite, on va revenir dessus, il dit de ses disciples, et c'est au verset 5, « Vous êtes les sarments. » Il s'adresse à ses 12 disciples. « Vous êtes les sarments. » Les sarments, ce sont ceux qui portent du fruit, qui sont censés porter du fruit. Très bien. Maintenant, afin de comprendre un peu mieux cette image, on va faire un schéma. Alors, le schéma, je le commence par cette image que j'ai prise du lavement des pieds. C'est dans Jean chapitre 13. Il est dit dans ce passage que Jésus met un comble à son amour. Il va laver les pieds de ses disciples. Et ici, je prends cette image volontairement. Je reviendrai dessus. Tout d'abord, on peut lire au verset 2, « Tout sarment qui est en moi, donc tout disciple qui est en Jésus, et qui ne porte pas de fruits, donc voilà l'image pour symboliser ne pas porter de fruits, qu'est-ce que le vigneron fait ? Le vigneron l'enlève, le Père l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, le vigneron le taille. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Au verset 3, Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Je reviendrai sur ce verset 3 également, et le début du verset 4. Pour continuer notre schéma, on va lire la suite du verset 4. « Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Ici, Jésus nous dit à ses disciples, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas attaché à moi. Et il insiste par la suite au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est au verset 5 plutôt. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On le voit, c'est celui qui demeure en Jésus, c'est celui qui est attaché à Jésus. Et Jésus va encore enfoncer le clou. Il va dire, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On voit que Jésus insiste lourdement sur une étape, l'étape d'être attaché à lui, être attaché au cep. Au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » La conséquence du sarment qui ne porte pas de fruits, c'est tout d'abord, bon, il n'est pas attaché à Jésus, il est détaché de Jésus, du cep. Il ne porte pas de fruits et il est jeté au feu. Au verset 8, le verset que j'ai relu, c'est un verset très important. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Vous serez alors vraiment mes disciples. On a une étape qui est également très très importante. La gloire de Dieu est manifestée lorsque nous portons beaucoup de fruits. La gloire de Dieu est manifestée lorsque nous portons beaucoup de fruits. La finalité du chrétien, du sarment, c'est de porter beaucoup de fruits. Ainsi, la gloire de Dieu est manifestée. Alors, dans ce verset, verset 8, Jésus dit « Vous serez alors vraiment mes disciples ». Je me suis questionné, pourquoi avoir utilisé le mot « vraiment » ? Est-ce qu'il est question de... Est-ce qu'il y a des disciples qui sont vraiment les disciples de Jésus et d'autres qui ne le sont pas vraiment ? Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette image du lavement des pieds. C'est un moment fort, comme je vous l'ai dit, c'est au début des dernières instructions de Jésus. Il y a les 12. Jésus va commencer à laver les pieds, il va laver les pieds de ses 12 disciples. Il va même laver les pieds de Judas. Et c'est pour cela que j'ai mis cette image. Judas était encore là, c'est juste peu de temps après que Judas va partir. Jésus va laver ses pieds. Et on sait ce qui va arriver par la suite. Judas va trahir Jésus et le verdict final pour Judas est... Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Vous vous rendez compte ? Et pour illustrer cette image, je vais vous lire un commentaire de Don Carson dans un livre qui s'appelle « Dans l'intimité de Jésus ». Don Carson, on le connaît parce qu'on a étudié son autre livre « La prière renouvelée » dans les groupes de quartier. Donc j'aimerais vous lire un passage. Il dit... L'homme peut croire dans le sens où il acquiesce intellectuellement. Il peut subir avec succès tous les tests auxquels une église qui a du discernement peut le soumettre, et même recevoir le baptême. Il peut devenir disciple de Jésus en acceptant tous ses enseignements, pour autant qu'on puisse s'en rendre compte. Il peut rendre témoignage et goûter quelque chose des élans de la sainteté, grâce à ses contacts avec les chrétiens. Pour tout ce qui se limite à son comportement, cet homme est un chrétien, un frère en Christ. Il est un sarment, une semence qui a germé et s'est développée. Mais si à un certain moment, il rejette la vérité, demeure stérile ou cède devant l'opposition, les auteurs inspirés de la Bible sont unanimes pour déclarer que cette personne n'a jamais pu être un vrai croyant. C'est fort. Et il continue en disant, en somme, une conversion authentique ne se prouve pas par la rapidité de la décision prise, mais par les fruits à long terme. Par les fruits à long terme. Donc, il y a des disciples, des personnes qui suivent Jésus, qui ne le sont pas vraiment. On peut par exemple lire dans l'évangile de Jean, ne le prenez pas, je vais le lire très rapidement, dans l'évangile de Jean plutôt, Jean chapitre 2, verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Seul Dieu peut nous sonder, seul Jésus connaît nos cœurs. Nous ne pouvons pas sonder les gens qui nous entourent. Mais il semblerait donc qu'il y ait des disciples, des personnes qui suivent Jésus, mais qui ne sont pas vraiment ses disciples. Et dans la citation de Don Carson, il est question de porter du fruit à long terme. Et dans cette image que nous avons lue, il y a la répétition du verbe « demeurer ».« Demeurez en moi et je demeurerai en vous ».« Demeurez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». Jésus va répéter à plusieurs reprises ce verbe. « Demeurer », donc « rester attaché », ce sont des verbes d'état. Ce sont des verbes qui signifient « persister ». Rester dans un état. Il est question de temps, de persévérer dans l'attachement à Jésus. Et effectivement, dans Hébreux 3, verset 14, il est dit « En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. » Voilà. Donc, des disciples qui le sont vraiment, d'autres qui ne le sont pas vraiment. Maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « porter du fruit » ? C'est une bonne question, porter du fruit. En tout cas, c'est ainsi que la gloire de Dieu sera manifestée, si nous portons beaucoup de fruits. Alors, il y a plusieurs compréhensions possibles. La première est les personnes qui sont amenées à Jésus par notre témoignage, par exemple. Certains passages de la Bible semblent le suggérer, par exemple, à la suite du passage que nous avons lu dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » que vous alliez, ça fait penser à la mission que Jésus va donner à ses disciples lorsqu'il est ressuscité. Il va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien entendu, porter du fruit, ça peut être ça, par notre témoignage. Et l'essentiel, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de cela. Une autre compréhension, peut-être, par exemple, une prière qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est exaucée, c'est également un fruit. Et pourquoi je dis cela? Je regarde en fait le verset 7. Il est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » On l'a vu, la conséquence de l'attachement à Jésus, c'est de porter du fruit. Si nous demeurons en Jésus, si nous sommes attachés à lui, et si nous gardons ses paroles, ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Il nous l'accorde pourquoi? Parce qu'on prie selon sa volonté. On a la parole de Jésus en nous. C'est aussi un fruit. C'est le résultat de notre attachement à Jésus. Un autre fruit, une autre compréhension, ça peut être les fruits de l'Esprit, bien entendu. Jésus va promettre l'Esprit dans ce passage, juste avant et juste après ce passage. Et c'est fort. Dans le chapitre 14, verset 15, Jésus va dire « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous, il sera avec vous, il sera en vous. » Donc Jésus va insister dans ce chapitre 14, au verset 23 notamment, au verset 26, il annonce la venue du Saint-Esprit. Et juste après, à la fin du chapitre 15, au verset 26, « Quand sera venu le défenseur, je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et Jésus va continuer au chapitre 16, il va parler encore du défenseur, de l'Esprit de Dieu. À partir du chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. On voit que ce texte, il est encadré par une promesse de la venue du Saint-Esprit. Donc, on peut légitimement comprendre que les fruits dont il est question, ça peut être les fruits de l'Esprit qui nous sont mentionnés dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, voilà trois choses qui peuvent être des fruits du disciple. Des fruits qui sont à la gloire de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Des fruits qui sont le résultat de notre attachement à Jésus. Bien sûr, il y en a certainement d'autres des fruits. Tout ce qui manifeste la gloire de Dieu, tout ce qui est le résultat de notre attachement à Jésus, ce sont des fruits que portent les chrétiens, les disciples de Jésus, les sarments. Il y a une étape qui est énigmatique, c'est l'étape de la taille. En fait, la croissance spirituelle, le fait de porter des fruits, est si importante que le chrétien qui porte du fruit, il est taillé pour en porter davantage, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, je vais vous lire une petite histoire que j'ai trouvée sur Internet, mais qui, je pense, illustre assez bien cette étape. La légende raconte qu'au début de la civilisation, les hommes se contentaient de cueillir les raisins sur les vignes. Un de nos ancêtres vignerons, quelque peu négligent, a un jour laissé son âne brouter ses vignes. Il aurait observé que les plants broutés par l'âne avaient produit des raisins plus beaux et plus abondants qu'à l'habitude. De cette observation jaillit l'idée de tailler les vignes. L'homme, à son tour, essaya de limiter le développement de la vigne en enlevant chaque hiver une partie des sarments et peu à peu, à force d'observation, il découvrit que les sarments laissés sur le bois productif de l'année d'avant donnaient des grappes plus grosses, portant des raisins également plus gros. La vigne est une plante pérenne. C'est une liane. Elle met toute sa vigueur à pousser en longueur, pour coloniser l'espace. Pour cela, elle nourrit préférentiellement les bourgeons qui sont éloignés de sa base, c'est-à-dire du cep. C'est le phénomène d'acrotonie, pour ceux qui veulent retenir. Il faut donc limiter la vigueur pour l'obliger à produire du raisin. Tailler, c'est modifier l'évolution naturelle du végétal. Tailler, c'est modifier l'évolution naturelle du végétal. Je pense que cette dernière phrase, elle illustre assez bien l'étape de la taille. Je vous ai lu les fruits de l'esprit dans Galates, mais juste au-dessus, il y a les fruits qui ne sont pas des fruits de l'esprit. J'aimerais vous les lire aussi. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit du travail de l'esprit dans le croyant, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous voyez, j'ai un peu reformulé le début. Mais le fruit de l'esprit est, et moi je vous dis, pour essayer d'illustrer un peu mieux peut-être, mais le fruit du travail de l'esprit dans le croyant, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Il est question, pour moi, je pense, de sanctification. Littéralement, tailler, ça veut dire purifier. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce verset 3 apparaît ici, juste après. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tailler, c'est purifier. C'est le processus de sanctification. Le chrétien n'est pas parfait. Il porte du fruit, mais il n'est pas parfait. Et Dieu va le tailler, comme il est dit, le vigneron va tailler le sarment. C'est une transformation qui est réelle et qui est visible. Celle-ci n'est pas facultative. Et c'est Dieu qui agit en nous au travers de son esprit. On l'a entendu dans la prière de Daniel. C'est par son esprit que Dieu agit en nous. Mais le chrétien a une responsabilité. Sa responsabilité est de se dégager de la pratique du mal et de ne plus prendre plaisir au péché. Ici, ce n'est pas le fait de se dégager de la pratique du mal, ce n'est pas une obligation qui est pesante. Pourquoi ? Parce que c'est une grâce. Dieu, par grâce, nous donne son esprit. Et nous avons cette responsabilité. La grâce de Dieu vient d'abord. Dieu nous donne d'abord son esprit. Donc, voilà comment est-ce que je comprendrais cette étape de la taille. Maintenant, il y a une étape qui est très importante. Comme je vous l'ai dit, c'est l'étape de l'attachement à Jésus. Le disciple porte du fruit en étant attaché à Jésus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire être attaché à Jésus ? C'est le début, c'est l'étape première. Être attaché à Jésus, ça nous permet de porter du fruit. Et le vigneron nous taille pour que nous portions encore plus de fruits. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu est manifestée. Donc, c'est une étape qui est très importante. Attaché à Jésus. L'attachement, en fait, à Jésus est au cœur de notre croissance spirituelle. On peut regarder, en fait, dans la suite de ce passage, je ne l'ai pas pris parce qu'on n'a pas un temps très important, mais la suite de ce passage, Jésus va continuer à utiliser le verbe « demeurer ». Je vais lire quelques extraits. Chapitre 15, toujours verset 9. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et au verset 14, il va dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Waouh, c'est fort. En fait, ce que Jésus veut nous expliquer par la suite, c'est que le croyant demeure attaché à Jésus, le croyant reste attaché à Jésus par le moyen de son obéissance. C'est par le moyen de notre obéissance que l'on est attaché à Jésus. Et le commandement auquel Jésus nous demande d'obéir dans ce passage, c'est de nous aimer les uns les autres. On peut le lire au verset 12 notamment. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus va insister ici, mais il n'insiste pas qu'ici. Le lavement des pieds, justement, chapitre 13. Jésus va laver les pieds de tous ses disciples. Il va laver les pieds de Pierre, de tous, et il va dire « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà, Jésus nous donne le commandement de nous laver les pieds les uns aux autres. Nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire nous pardonner les uns les autres. Nous aimer, c'est le commandement que le Seigneur nous donne. Ça commence par nous pardonner les uns les autres. Un peu plus loin, à la fin, chapitre 17, Jésus va prier pour ses disciples. Dans sa prière, il va insister sur une chose qui est vraiment importante. Chapitre 17, à partir du verset 11, « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » On continue un peu plus loin, à partir du chapitre 20, à partir du verset 20 plutôt, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. » L'unité, nous laver les pieds les uns les autres, être un. Voilà sur quoi Jésus va insister dans ses dernières instructions. Et même, j'ai oublié, au chapitre 13, à partir du verset 34, Jésus va le dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà ce que Jésus veut laisser comme message important à ses disciples avant de partir. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Et ce commandement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un commandement qui est oppressant et qui devrait nous susciter notre crainte. Pourquoi ? Parce que l'amour de Jésus est premier, parce que Jésus nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié pour nous, on l'a partagé pendant la Sainte Cène. Il nous a aimés le premier. Il nous demande en retour de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Donc Jésus va insister sur l'amour, sur l'unité fraternelle. Et c'est un moyen fort de témoignage. Il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est un moyen fort de témoignage. L'amour et l'unité fraternelle. Le témoignage communautaire. Qu'est-ce que cela implique? Pour conclure, qu'est-ce que cela implique? Comme on l'a vu, Jean chapitre 13, Jésus va laver les pieds de ses disciples et il dira, « Comme je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Ça commence par ça, s'aimer les uns les autres. Ça commence par le pardon, parce que comme on l'a vu, on n'est pas parfait. Il y aura des couacs, il y aura des situations où ça n'ira pas. Mais Jésus nous demande de nous pardonner les uns les autres. Ça commence par cela, s'aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ça implique, l'amour fraternel et l'unité? J'aimerais vous lire un passage dans 1 Corinthiens qui va illustrer une implication de cela. Prendre soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 18 jusqu'à 27. Ici, l'apôtre Paul va prendre l'image du corps et dire « En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Dans la version du Semeur, il est dit, « Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun ait le même souci les uns des autres. » Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voici une autre application. Prendre soin les uns des autres. Et le témoignage communautaire est visible. Et la finalité, c'est que la gloire de Dieu sera manifestée. Et pour finir, je pense que le fonctionnement de notre assemblée, il nous donne largement un cadre pour mettre en action notre amour. Je pense particulièrement au groupe de quartier, par exemple, où nous pouvons recevoir nos frères et sœurs chez nous, partager ensemble la parole, partager dans la communion fraternelle, prier les uns pour les autres. Prier ensemble pour les sujets de prière de l'Église, les réunions de prière, par exemple, aussi. Il y a également le groupe de visite qui, je crois, a commencé cette année, nous visiter les uns les autres. Voilà des choses que l'on peut faire pratiquement pour manifester cet amour, pour appliquer ce commandement que le Seigneur nous donne. Mettons toute notre application à cela, et c'est ainsi que la gloire de Dieu sera manifestée. Que le Seigneur vous bénisse.